Cette vérité n'empêche, j'ai quand même mis du temps à l'accepter. Me réveillant au matin, après quelques heures d'un sommeil lourd, un vrai sommeil de plomb, et récapitulant toute la journée de la veille, je fus réellement ébahi par ma sentimentalité avec Lisa. Toutes ces horreurs, tous ces apitoiements d'hier. Les nerfs d'un seul coup qui partent en compote, comme une bonne femme. Zut alors, me disais-je. Et pourquoi je lui ai donné mon adresse, si elle venait vraiment? Encore que bon, qu'elle vienne, tant pis. Mais, visiblement, l'affaire la plus grave, la plus importante, ce n'était pas celle-là pour le moment. Il fallait que je me hâte, et coûte que coûte, que je sauve ma réputation aux yeux de Zverkov et de Simonov. C'était cela, l'essentiel. Lisa, je l'avais même totalement oubliée, ce matin-là, dans toute l'agitation. D'abord, il fallait absolument que je rende ma dette de la veille à Simonov. Je me résolus à un moyen désespéré. Emprunter carrément 15 roubles à Anton Antonovitch. Comme par hasard, il était ce matin-là d'une humeur excellente. Il me les donna tout de suite, à la première demande. J'en fus tellement heureux qu'en lui signant le reçu, je lui appris avec insouciance, pour ainsi dire entre hommes, que nous avions fait la bringue avec des amis à l'hôtel de Paris, un dîner d'adieu pour un camarade, on peut dire même un ami d'enfance. Et vous comprenez, la bringue, lui, il sait ce que c'est, il s'y connaît. Bon, bien sûr, d'une bonne famille, une fortune importante, carrière éblouissante, un homme d'esprit adorable, il intrigue avec ses dames, vous me suivez? On a bu une demi-douzaine de trop et rien. Cela se prononçait de la façon la plus facile, d'un air détaché, satisfait. Rentré chez moi, je me hâtais d'écrire à Simonov. Jusqu'à présent, je reste en admiration quand je pense au vrai ton de gentleman, affable et ouvert de ma lettre. D'une façon noble et très habile, et surtout sans la moindre parole superflue, j'ai pris tous les péchés sur moi. Je me justifiais, si seulement il est encore possible de me justifier, par le fait que, sans aucune habitude de l'alcool, je m'étais senti ivre dès le premier verre que j'avais bu, n'est-ce pas, avant leur arrivée, quand je les attendais à l'hôtel de Paris, de 5 à 6. Mes excuses, je les présentais surtout à Simonov. C'est à lui que je demandais de transmettre mes explications à Zverkov, que, je m'en souviens comme dans un rêve, j'avais, semble-t-il, offensé. J'ajoutais que je serais passé les voir tous moi-même, mais que j'avais une migraine terrible et que, d'abord, j'avais honte. Ce qui me laissa une satisfaction particulière, c'était cette certaine légèreté, disons, ce soupçon d'insouciance, tout à fait digne au demeurant, qui se refléta soudainement dans mon style et qui, mieux que toutes mes explications, d'un coup, leur donnait à comprendre que je considérais mes bassesses de la veille avec une dose d'indépendance. Non seulement, n'est-ce pas, ça ne m'avait pas tué net, comme vous le pensiez sans doute, messieurs, mais au contraire, je le considère comme ça doit être considéré par un gentleman qui s'estime tranquillement. Regardez ce que je suis, n'est-ce pas? Ne regardez pas ce que je fais. Mais d'où me vient-elle donc cette frivolité de marquis? Me demandai-je, béat, en relisant ma lettre. Elle vient de ce que je suis un homme civilisé et cultivé. Les autres, à ma place, ne sauraient pas comment se tirer d'affaire, et moi, non seulement je m'en tire, mais je m'en trouve mieux. Et tout ça parce que je suis un homme civilisé et cultivé de notre temps. Et puis, c'est vrai, sans doute que c'est arrivé à cause du vin. Non, pas le vin. Je n'ai pas bu une goutte de 5 à 6 quand je les attendais. Je lui ai menti à Simonov. J'ai menti sans vergogne. Et même maintenant, je n'ai pas honte. Mais bon, laissons tomber. Je m'en étais tiré, voilà l'essentiel. Je mis 6 roubles dans la lettre, je cachetai et convainquis Apollon de la porter à Simonov. Apprenant que cette lettre contenait de l'argent, Apollon devint plus respectueux et accepta d'y aller. Le soir, je sortis prendre l'air. J'avais mal à la tête, ça me tournait depuis la veille. Pourtant, plus le soir approchait, plus les ténèbres s'épaississaient, plus mes impressions se transformaient, se mêlaient et mes pensées avec. Je sentais quelque chose qui refusait de mourir au fond de moi, dans le fond de mon cœur, de ma conscience, qui s'obstinait à ne pas mourir, qui se traduisait en angoisse brûlante. Je traînais dans les rues les plus populeuses, les rues marchandes, Metskanskaya, Sadovaya, près du parc Youssoupov. J'avais toujours aimé me promener, surtout au crépuscule, le long de ces rues-là, à ces moments précis où se faisaient plus épaisses les foules de passants, les commerçants, les artisans, visages presque enragés de soucis, rentrant chez eux de leur lieu de travail. J'aimais cette agitation à deux sous, ce prosaïsme insolent. Cette fois-là, la cohue de la rue m'énervait encore plus. Quelque chose montait toujours du fond du cœur, me faisait mal, refusait de s'apaiser. Je rentrais chez moi complètement accablé, comme si j'avais, je ne sais pas, un crime sur la conscience. L'idée que Lisa allait venir me torturait. Ce qui me paraissait bizarre, c'est que, de tous les souvenirs de la veille, son souvenir à elle me tortura, d'une façon indépendante, tout à fait isolée. Le reste, au soir, j'avais déjà eu le temps de l'oublier, de l'envoyer balader, et j'étais toujours pleinement satisfait de ma lettre à Simonov. Mais là, c'est-à-dire, je n'étais plus satisfait. Comme si, au fond, il n'y avait que Lisa qui me tortura. Et si elle vient, quoi ? Ne cessais-je de me demander. Eh bien bon, ça ne fait rien qu'elle vienne. Hein ? Ce qui est déjà moche, c'est qu'elle verra par exemple comment je vis. Hier, elle m'a vu comme un héros. Et là, hein ? C'est moche. N'empêche, comment je me suis laissé tomber ? C'est la misère chez moi. Et j'ai osé hier aller dîner dans une tenue pareille. La toile cirée de mon divan et sa filasse qui ressort, et mon peignoir qui ne peut même rien couvrir, c'est éloque. Tout ça, elle le verra. Et Apollon, elle le verra. Cette canaille, je parie, va encore l'humilier. Il lui cherchera des puces, rien que pour me faire une crasse. Et moi, bien sûr, comme d'habitude, j'aurai la trouille, je me ferai tout petit devant elle, je voudrai me couvrir avec les pans de mon peignoir, je me mettrai à sourire, à mentir je me mettrai. Ah, quelle saleté! Et la saleté suprême, ce n'est encore pas ça. Il y a quelque chose de plus grave, de plus sale, de plus vil. Oui, de plus vil. Oui, encore une autre fois, une autre, se coller sur la face, ce masque mensonger, malhonnête. Parvenu à cette idée, j'explosai carrément. Comment ça, malhonnête? Pourquoi ça, malhonnête? Hier, j'ai été sincère quand je lui parlais. Je me souviens, moi aussi, j'éprouvais quelque chose. Ce que je voulais, justement, c'était éveiller en elle quelque chose de noble. Elle a pleuré un peu, tant mieux. L'effet sera bénéfique. Et malgré tout, il n'y avait pas moyen que je me calme. Toute cette soirée, depuis que j'étais rentré chez moi, après déjà 9 heures, quand selon mes calculs, Lisa n'avait plus aucune chance de venir, j'avais sans cesse l'impression qu'elle était là, et surtout, je la revoyais dans la même position. Il y avait un moment que je revoyais avec une précision particulière, ce moment où j'avais éclairé la chambre avec une allumette et où j'avais vu sa figure, blême, grimaçante, son regard de martyr. Et ce sourire si pitoyable, si faux, si grimaçant qu'elle avait à ce moment-là. Je ne savais pas encore que, même 15 ans plus tard, je continuerai à me représenter Lisa avec ce sourire grimaçant, pitoyable, inutile. Oui, celui qu'elle avait à cette minute précise. Le lendemain, j'étais de nouveau prêt à considérer tout cela comme des bêtises, nerfs en compote et surtout, exagération. J'avais toujours été conscient de ce tendon d'Achille et j'en avais parfois très peur. J'exagère toujours, tout mon défaut est là, me répétais-je d'heure en heure. N'empêche quand même, Lisa, sans doute elle viendra. Voilà le refrain par lequel s'achevaient toutes mes réflexions. J'étais tellement inquiet que j'en arrivais parfois à la furie. Elle viendra à coup sûr, m'exclamai-je en courant dans ma chambre. Demain, si ce n'est pas aujourd'hui, elle saura bien me trouver. C'est ça le maudit romantisme de ces cœurs purs. Oh, la saloperie, la bêtise, oh, la naïveté de ces fichues âmes sentimentales. Et comment ne pas comprendre ? C'est vrai, hein ? On dirait ne pas comprendre. Mais là, je m'arrêtais de moi-même, et dans un drôle de trouble. Et qu'il en faut peu, mais peu, me disais-je en passant, des mots. Et qu'il en faut peu, d'idylle. Et une idylle encore, de poudre aux yeux, livresque, inventée, pour retourner une âme comme on veut. La voilà, votre virginité. La voilà, la fraîcheur de l'origine. Parfois, il me venait à l'esprit d'y aller moi-même, chez elle, de tout lui raconter et de la convaincre de ne pas venir chez moi. Mais là, à cette pensée, je sentais se lever en moi une telle rage que je crois que cette maudite Lisa, je l'aurais démolie. Si je l'avais vue devant moi, je l'aurais humiliée, je lui aurais craché dessus, je l'aurais chassée, battue. Pourtant, un jour passa, un autre, puis un troisième. Elle ne venait toujours pas, et je commençais à me calmer. C'était surtout après 9 heures que je reprenais du poil de la bête et que je me donnais du champ libre. Je commençais même parfois à rêver, et c'était assez doux. Lisa, par exemple, je la sauve par le fait même qu'elle vient me voir et je lui dis « Je la développe, je l'éduque. » À la fin, je remarque qu'elle m'aime passionnément. Je fais semblant de ne pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je fais semblant. Comme ça, sans doute, pour faire bien. À la fin, toute confuse, splendide, tremblante et sanglotante, elle se jette à mes pieds et dit que je suis son sauveur, qu'elle m'aime plus que tout au monde. Je suis sidéré, mais « Lisa, lui dis-je, penses-tu vraiment que je n'ai pas remarqué ton amour ? J'ai tout vu, tout compris, mais je me refusais à conquérir ton cœur, car j'exerçais une influence sur toi, et je craignais que toi, par pure reconnaissance, tu ne t'obliges exprès à répondre à ma flamme, que tu n'ailles te forcer à éveiller en toi un sentiment peut-être inexistant. Cela, je ne le voulais pas, car c'est du despotisme. C'est indélicat. Bon, bref, là, je me serais enferré dans une sorte, disons, de raffinement de la reconnaissance, le genre européen, George Sand, indicible. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu es à moi, tu es ma créature, tu es pure, tu es belle, tu es mon épouse splendide. Entre chez moi et libre et fière, sois ma maîtresse de maison. Et là, on se met à vivre, on fait un voyage à l'étranger, etc. Bref, ça me donnait la nausée à moi-même et je finissais par me tirer la langue tout seul. Mais ils ne la laisseront pas, cette traînée, me disais-je, parce qu'on ne les laisse pas trop, je crois, se promener seule, et le soir en plus. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée qu'elle viendrait obligatoirement le soir et à cette heure précise. N'empêche, elle m'a dit qu'elle n'était pas encore complètement prisonnière, qu'elle avait des droits particuliers, donc, nom de nom, elle viendra à coup sûr. »